La question des traductions, nous allons entamer un nouveau chapitre qui pourrait s'intituler ainsi « Maîtriser la Bible ». Il est certain que c'est là une des conditions essentielles d'une interprétation juste et vraie, et il est extrêmement important, bien sûr, que nous interprétions la Bible d'une manière correcte. Pour cela, donc, il faut maîtriser la Bible. Maîtriser la Bible, ça veut d'abord dire lire la Bible. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Car parfois, vous avez des gens qui étudient des livres sur la Bible, mais qui n'étudient pas la Bible elle-même. Et la première condition pour maîtriser la Bible, c'est de la lire. C'est une lapalissade, ça paraît une évidence, ça ne l'est pas toujours, malheureusement. Lire la Bible, c'est, comme le disait Dimitri Kuznetsov quand nous l'avons rencontré il y a peu, ce n'est pas la lire comme un livre ordinaire, c'est sûr. C'est la lire dans un esprit de prière. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous prions à partir de la parole, si je puis dire, n'est-ce pas, que cette parole devient pour nous parole vivante et qu'elle s'ouvre à notre intelligence. Lire la Bible, c'est la lire comme la parole même de Dieu, parce que nous sommes bien persuadés qu'elle est véritablement la parole de Dieu. C'est le grand exégète et commentateur anglais évangélique Campbell Morgan qui disait que pendant 2 ans, il n'a rien lu d'autre que la Bible. Et c'est de Wesley, je crois, ou Moody, je ne me souviens plus, un de ces deux grands hommes de Dieu, Wesley, je crois, qu'il nous ait dit dans son éloge funèbre, n'est-ce pas, celui qui a présidé son éloge funèbre, a dit de lui à peu près ceci: c'était l'homme d'un seul livre. Et c'est sûr que c'est le plus bel éloge que l'on puisse accorder à un homme de Dieu, de dire qu'il était l'homme d'un seul livre, la Bible, bien entendu. Un pasteur disait aussi que s'il avait à nouveau la possibilité de revenir en arrière, de maîtriser son temps, il lirait davantage la Bible et beaucoup moins d'autres livres. Ça, c'est aussi une parole qui devrait nous amener à réfléchir, parce que c'est vrai que nous perdons parfois beaucoup de temps à lire toutes sortes de livres, et nous devrions passer plus de temps à lire la Bible. Et lorsque nous lisons la Bible, il se produit quelque chose de tout à fait particulier, c'est que nous avons le sentiment profond de la présence de Dieu. Que nous sentons que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et que cette histoire, l'histoire de la Bible, devient aussi notre histoire. Prenez par exemple les Huguenots Cévenols dont nous parlons ces temps et qui trouvaient dans la Bible les moyens de surmonter les difficultés de leur propre histoire. Et ils revivaient en quelque sorte l'épopée d'Israël, l'épopée de la conquête de Canaan par Josué, les délivrances de l'Éternel à l'époque des juges, etc. C'était cette histoire, cette vieille histoire biblique devenait leur histoire. Autre point, en lisant la Bible, nous avons une profonde conscience de la souveraineté de Dieu. Dieu qui est, comme l'ont dit plus d'un théologien, le maître de l'histoire. Par exemple, c'est ce que nous trouvons dans Daniel 2, Acte 17, verset 26, n'est-ce pas, quand Daniel a cette vision de la grande statue et qu'il se rend compte que Dieu est celui qui conduit l'histoire. Dans une lecture courante de l'Écriture aussi, nous remettons les textes dans leur contexte, et ça c'est très important. Parce que, bien sûr, nous ne pouvons pas toujours ne pas extirper un texte. Il est certain que, par exemple, dans la prédication, c'est quelque chose qu'on est amené à faire couramment. Mais il est important pour soi-même, pour avoir une vue équilibrée de la doctrine, de la Bible, etc., d'avoir une vue d'ensemble. Et cela ne peut se faire que dans une lecture quotidienne, régulière, courante de la Bible. Et cette lecture globale, si je puis dire, nous donne une vision de l'unité de la révélation biblique. C'est toujours le grand drame qui conduit d'ailleurs aux hérésies, aux sectes et choses semblables, de lire la Bible, comme le disait le père Jimbal en son temps, n'est-ce pas, au scotch tape, c'est-à-dire qu'on prend un verset par-ci, on le colle par-là avec un autre, etc., en sautant sur tout le contexte. Non, il faut avoir une vision d'ensemble. La Bible, c'est une dynamique. Et il nous faut avoir une vision d'ensemble, même si ensuite nous sommes amenés, pour, dans différentes circonstances, dans différents moments, à privilégier tel ou tel texte, mais toujours, n'est-ce pas, dans une vision dynamique, pas quelque chose de statique, pas comme on dissèque un cadavre mort, n'est-ce pas, ce qui est le grand drame des théologiens, mais vraiment dans une, comme une parole vivante. Et alors, la Bible devient pour nous autorité. Autorité, là, il y a une autorité de l'Écriture qui se dégage quand nous lisons la Bible de cette manière-là. Alors maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est comment lire la Bible. Bon, ça, ce sont des conseils qu'on donne en général aux nouveaux convertis, mais je crois qu'il est bon parfois de se les redire à soi-même et de se les répéter. Il y a plusieurs manières, et je crois qu'il faut que nous lisions la Bible de différentes manières. Les rabbins ont dit qu'il y a à chaque verset 70 facettes, ça veut dire 70 lectures possibles. C'est une manière imagée de dire qu'il y a toujours quelque chose à recevoir, quelque chose de nouveau à apprendre, hein, qu'on n'a jamais épuisé les richesses d'un texte. Alors, pour en faire ressortir les richesses, c'est comme un diamant. Il faut le déplacer, le diamant, il faut le tourner, n'est-ce pas, pour que la lumière soit réfractée d'une manière différente et que des richesses nouvelles nous apparaissent. Alors, nous ne devons pas avoir une seule lecture de la Bible, une seule méthode de lecture de la Bible. Je crois que, d'abord, on peut lire la Bible rapidement, couvrir des longues sections, sans s'arrêter aux difficultés, justement pour avoir cette vue globale, cette vue d'ensemble dont nous parlions tout à l'heure. Il faut une lecture systématique. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je crois que c'est essentiel. C'est pas une lecture systématique qui nous donne une vue d'ensemble de la Bible. Et beaucoup de problèmes dans le domaine de la compréhension de l'Écriture, dans le domaine de l'exégèse et de l'herméneutique viennent de ce que, justement, on n'a pas une vue d'ensemble. Mais, par exemple, j'écoutais l'autre jour à la radio, dimanche matin, le culte de la Fédération protestante, et je suis excédé constamment, n'est-ce pas, quand il m'arrive de tomber sur cette émission-là, n'est-ce pas, on a l'impression que certains pasteurs réformés ne connaissent dans la Bible qu'un seul texte, Matthieu 25. « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire », qui leur sert de prétexte pour des discours gaucho-socialo-humanistes, n'est-ce pas, dont ils ne sortent pas. Bon, ben, c'est une lecture très partielle, c'est une lecture très tronquée de l'Écriture, c'est évident, n'est-ce pas? On a l'impression que ces gens-là lisent davantage Marx que la Bible, et que quand ils sont obligés de venir à la Bible, parce que de temps en temps, quand ils prêchent, ils peuvent quand même pas prêcher à partir du Capital, c'est évident. Alors, ils se récupèrent sur un certain nombre de textes privilégiés, toujours les mêmes. Il y a celui-là, il y a Ésaïe 58, le vrai jeûne, si tu délivres celui qu'on opprime, alors ton soleil paraîtra, etc. Bon, ben, c'est biblique, je le crois, bien sûr, c'est évident. Mais c'est l'usage qu'ils en font, n'est-ce pas? Au lieu de replacer cet ensemble dans son contexte, bien sûr, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le second commandement. Mais pourquoi ne prêche-t-il jamais sur le premier? Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, qui est quand même avant le second commandement, même si le second lui est semblable. Alors, voyez-vous, ça c'est très important. Nous ne devons pas faire une lecture sélective de la Bible. Il y a beaucoup qui font une lecture sélective de la Bible. On a des espèces de passages préférés sur lesquels on revient toujours. Vous avez des gens, n'est-ce pas, qui reliront constamment les mêmes passages sur l'amour de Dieu, puis qui éviteront tous les passages ou les questions de jugement. Vous avez des gens qui ne liront que le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament les gêne, ils sont contre la guerre, ils sont contre ci, contre ça, etc. Vous avez des gens qui, par souci, n'est-ce pas, d'un charismatisme mal compris, s'arrêteront uniquement au livre des Actes, au chapitre 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens, enfin, tous les textes qui parlent de charisme, de manifestation de ce type-là, et puis qui laisseront de côté le reste, etc. Et on peut tomber dans l'excès que dénonce le livre d'Apocalypse, celui qui retranchera. Hein. Alors, on ne va pas retrancher dans ce sens que, objectivement, on n'arrache pas des pages de la Bible, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Parce que vous avez des gens qui ne liront jamais certains textes. Vous avez des gens qui ne liront jamais certains livres. Vous avez des gens qui ne liront jamais le livre du Lévitique, par exemple. Or, le livre du Lévitique est rempli de richesses. Vous avez des gens qui ne liront jamais le livre de l'Ecclésiaste, ou bien le Cantique des Cantiques, ou des choses comme ça, parce que ça leur semble tout à fait incongru avec le reste de la révélation biblique. Mais qu'ils fassent l'effort de se demander pourquoi ça s'y trouve, et pour ça qu'ils commencent par lire. Mais non, vous avez des lectures sélectives qui sont faites. Alors, il ne faut pas se livrer à des lectures sélectives. Et il nous faut lire fréquemment dans la Bible. Hein, ça, c'est sûr. Et aussi, le faire par plaisir. Ça, c'est. Parfois, on le fait par devoir, par obligation. On le fait. Il faut trouver un texte pour telle circonstance, etc. Mais lire par plaisir. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le psaume 119, verset 24 ou verset 97. Hein. Le psalmiste exprime le fait qu'il trouve son plaisir, sa joie dans la lecture de la parole de Dieu. Et nous pouvons dire que nous commençons à mordre vraiment à l'écriture à partir du moment où nous lisons par plaisir. Et puis, il y a un autre aspect très important qui va de pair avec la lecture, c'est la méditation. Le psaume 119, par exemple, insiste beaucoup sur la méditation. On trouve ça dans le psaume 1er aussi, « Heureux l'homme » qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui la médite jour et nuit. C'est très intéressant de noter que la Bible parle peu d'études. Il y a peu de textes, à ma connaissance, où nous sommes exhortés à étudier la Bible. Mais il y a de très nombreux textes où nous sommes invités à méditer. Méditer, peu de gens savent véritablement ce que c'est, et savent véritablement comment méditer. Méditer, c'est un mot qui signifie à la limite ruminer, un ruminant. Bon, ben, c'est quelqu'un qui ramène les mêmes choses, qui répète, quoi. Hein. Et dans le but, n'est-ce pas, d'en faire sortir des choses qu'il n'avait pas encore comprises, qu'il n'avait pas encore réalisées. Il ramène à la mémoire. Et méditer, c'est aussi, si vous voulez, triturer le texte, si j'ose dire, au sens bon du terme, dans toutes ses dimensions, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, ce que Paul dit aux Éphésiens, n'est-ce pas, afin que vous compreniez avec tous les saints la hauteur, la profondeur, la largeur, enfin, il parle de l'amour de Dieu, entre autres, enfin, on pourrait dire, étendre encore ce texte plus, disons toute l'Écriture, quoi, hein. Et alors, qui dit méditer, dit aussi qu'il y a un travail de mémorisation qui doit être fait. Et alors ça, c'est une chose sur laquelle j'ai souvent insisté, parce que ça me semble fondamental dans la tradition d'Israël, et pas simplement parce que c'est une tradition humaine, si ce n'était qu'une tradition humaine, ça ne nous intéresserait pas, mais parce que c'est quelque chose aussi que la Bible nous enseigne elle-même. Il est certain que mémoriser des textes bibliques, des passages bibliques, c'est une grande aide, parce que le Saint-Esprit a à sa disposition tout un ensemble de textes qu'il peut amener à notre mémoire au moment opportun. Nous n'avons pas toujours sous la main une Bible, hein, quand soudain nous sommes confrontés à un problème de notre vie quotidienne, par exemple. Et quand bien même aurions-nous une Bible sous la main, encore faut-il trouver le bon texte au bon moment. Tandis que si nous avons dans notre mémoire un ensemble de textes bibliques, eh bien soudain, dans une circonstance qui va surgir inopinément dans notre vie, le Saint-Esprit va soudain amener à notre mémoire tel texte qui va être une réponse de Dieu pour le problème immédiat qui se pose à nous. Mémoriser, parce que finalement, c'est la démarche des hommes de la Bible même. À une époque où l'écriture et la lecture et l'imprimerie en particulier n'étaient pas évidemment répandues comme elles le sont aujourd'hui, on confiait énormément de choses à la mémoire. Et les hommes de la Bible avaient une mémoire phénoménale, mémoire que nous avons perdue dans ce monde où maintenant nous avons des mémoires artificielles. Si tu pouvais faire en sorte d'arriver un petit peu à l'heure, si tu peux, Joël, parce que là tu nous perturbes. quand tu arrives en retard comme ça, surtout que, étant sur place, tu n'as peut-être pas tellement de raisons, à moins que tu aies un empêchement majeur. Hein? Surtout qu'on te fait le... On t'accueille comme ça, alors bon, essaye d'être régulier si tu peux faire autrement que d'arriver en retard. Quoi. Bon, je ne sais plus ce qu'on disait, on parlait de... Oui, de la mémoire. Et aujourd'hui, donc, on a perdu l'usage de la mémoire. On a des mémoires artificielles, des ordinateurs et des choses comme ça. Et on se décharge, n'est-ce pas, de l'effort de mémorisation sur des ordinateurs et des choses comme ça. C'est dramatique. C'est dramatique. Et aussi, en ce qui concerne la parole de Dieu. Il n'y a pas de méditation possible. Il n'y a pas d'intelligence possible. S'il n'y a pas un minimum d'effort de mémoire. Notre intelligence ne peut fonctionner qu'à partir du moment où elle a des éléments en mémoire. Hein. Et obligatoirement, la mémoire est une des données fondamentales de l'intelligence. La capacité de se remémoriser des choses est une des fonctions essentielles de l'intelligence. Alors, ça c'est d'une manière générale, dans la vie courante. Mais aussi l'intelligence spirituelle, l'intelligence des choses de Dieu, implique que nous ayons une mémoire. Et il n'y a pas de méditation sans mémoire, précisément. Et c'est pourquoi, s'il est question de méditer, ruminer, comme nous disions tout à l'heure, eh bien, c'est ramener à la mémoire. Ramener à la mémoire. C'est ce que dit Asaph dans le psaume 73, n'est-ce pas ? Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Vous vous souvenez de cet autre psaume, j'ai plus le chiffre en mémoire, mais qui nous dit ceci, n'est-ce pas, ce que nous avons appris de nos pères, ce qu'ils nous ont enseigné, nous l'enseignerons nous aussi à nos enfants, afin que le souvenir s'en conserve, etc. etc. C'est très important, n'est-ce pas, qu'il y ait cette transmission aussi, pratiquement de génération en génération, d'une mémorisation. Et c'est les monitrices qui nous disaient la dernière fois qu'elles essayaient de faire apprendre des versets aux enfants. On a du mal à faire apprendre des versets aux enfants. Hein. Les générations précédentes apprenaient plus facilement déjà. Mais là, on sent qu'actuellement, c'est le courant général. C'est le courant général. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais cette petite digression pour dire que les parents devraient faire un effort vis-à-vis de leurs enfants quand ils ont des versets à apprendre pour qu'ils les apprennent. Hein? Parce que c'est très important. Moi, j'ai des versets que j'ai appris étant enfant à l'école du dimanche, dont je me souviens encore. On apprenait des psaumes entiers, le psaume premier, par exemple, des choses comme ça. Eh bien, bon, ben voilà. Hein? Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez dans le Meacharim à Jérusalem, dans le quartier des Juifs pieux, vous prenez un enfant dans la rue, vous lui demandez, récite-moi, je sais pas moi, le psaume 119 du verset 1 jusqu'au verset 60, eh bien, il vous le sort, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, voilà. Ça, c'est un effort qu'il nous faut apprendre à faire. Alors, la méditation... Eh bien, c'est finalement se parler à soi-même. Psaume 19, verset 14. C'est une conversation avec soi-même sur les choses de Dieu. Et c'est en cela que c'est justement quelque chose qui est comparé à une rumination. C'est ramener à son souvenir, à sa mémoire, pour en tirer, comme disait Jésus quand il parlait du scribe instruit des choses du royaume de Dieu, des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est dans la mesure où nous ramenons des choses anciennes que nous allons découvrir des choses nouvelles. C'est dans la mesure où nous partons de ce qui a été acquis, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons réalisé jusque maintenant, que nous allons pouvoir aller plus loin. C'est comme un tremplin. Hein. On est obligé de prendre du recul quand on va sauter, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui va faire du saut en longueur, eh bien, il se recule. Et puis, soudain, n'est-ce pas, il s'élance, et puis au moment où il arrive à la limite du tremplin, eh bien, il saute. Bien, c'est un peu la même chose dans le domaine spirituel, n'est-ce pas ? Prendre du recul par rapport à ce que nous avons déjà reçu, et puis ensuite nous élancer dans des choses nouvelles que le Seigneur va nous révéler. La méditation, on pourrait dire, c'est l'acte d'entrer dans le sanctuaire de l'Écriture. Et c'est pourquoi la méditation est aussi, d'une certaine manière, un acte d'adoration. On parle beaucoup d'adoration actuellement, il y a toutes sortes de formes d'adoration plus ou moins bizarroïdes. Il y a même des écoles maintenant d'adoration, on fait des séminaires d'adoration et des choses comme ça. Bon, c'est plus ou moins discutable. Je crois que c'est très simple. Lorsque nous entrons dans le sanctuaire de l'Écriture, nous le faisons justement avec, avec le respect pour le Seigneur, pour sa parole. Et c'est dans ce domaine-là que nous apprenons un certain nombre de choses. L'étude, c'est le travail. Et il y a une part d'étude, c'est vrai. Et la méditation, eh bien, c'est l'adoration. Autre point également très important dans cette étude de la parole de Dieu, à noter. C'est une très très bonne chose d'annoter sa Bible. Il y a d'ailleurs parfois, on vend dans le commerce, entre parenthèses, des Bibles qui ont une page blanche intercalaire à chaque fois. Hein? Ça permet justement de noter un certain nombre de choses. Par exemple, on prend souvent ça pour des prédicateurs, ça les évite d'avoir des feuilles qui traînent avec eux quand ils font des prédications, ils ont ça directement à côté du texte qu'ils méditent. Bon, c'est pas réservé qu'aux prédicateurs, c'est pas, mais c'est une très bonne chose d'annoter, même si on n'a pas cette Bible-là avec des pages intercalaires, qui évidemment double aussi le volume de la Bible, c'est évident. Mais, par exemple, on peut utiliser des crayons de couleur, hein, souligner des passages, je sais pas moi, en rouge ce qui concerne l'amour de Dieu, en bleu ce qui concerne la sainteté, des choses semblables. Et puis en marge, noter un certain nombre de choses qui nous ont frappés. Alors c'est très intéressant parce qu'on peut y revenir des années plus tard. Et on dit, tiens, c'est vrai, le Seigneur m'avait montré telle chose à tel moment, des choses qu'on avait oubliées, hein, que le Seigneur nous a dites à un certain moment, qu'on a comprises à un certain moment et qu'on avait oubliées. Tandis que si on les note, hein, quitte à avoir d'ailleurs de temps en temps changé de Bible, quand, d'abord parce que les Bibles ça s'use comme tout le reste, et puis ranger celles que nous avons à noter, et puis ensuite les reprendre de temps en temps, dire tiens c'est vrai là ce passage là, j'avais vu telle chose en son temps, c'est intéressant, et puis ça nous rappelle les circonstances dans lesquelles nous étions à ce moment là, c'est pas un problème précis qui s'est posé alors et qui a été, ou soudain tel et tel texte, tel et tel verset a été réponse de Dieu pour nous. Alors ça c'est une chose très importante aussi. La méditation, on se dit en hébreu aussi le drash, d'où l'expression midrash, n'est-ce pas ? L'hydroche en hébreu, ça veut dire creuser, sonder, creuser profondément. Hein, le drash, c'est celui qui gratte. Hein. Bon, ben, c'est ça, la méditation de la parole de Dieu, c'est creuser, c'est sonder, c'est aller profondément dans le texte lui-même, n'est-ce pas ? Évidemment, dans une lecture assidue, comme nous voyons dans Jean 5, verset 39, par exemple, n'est-ce pas ? Lecture qui n'est pas routinière, qui n'est pas simplement un devoir qu'on accomplit, comment il faut faire, comment on est obligé de se laver tous les matins ou de se raser, etc. Non, quelque chose qui soit vraiment motivé par un désir ardent de rencontrer Dieu, d'entendre une parole de Dieu, quoi. Alors, bien sûr, là, pour arriver à ce but, nous pouvons aussi avoir des aides. Il est certain que dans certains de ces aspects, la Bible est un livre difficile. Et nous n'allons pas refaire le monde. Et s'il est vrai que notre démarche première, comme je l'ai souligné, consiste à lire, méditer et étudier la Bible pour nous-mêmes d'abord, eh bien ensuite, nous avons le devoir, je dirais, de comparer ce que nous avons cru comprendre avec ce que les autres ont compris. C'est très important pour ne pas tomber dans l'excès d'individualisme dans lequel tombent souvent les évangéliques, qui a fait dire à certains catholiques, d'une manière un peu caricaturale, mais pas toujours entièrement fausse, que chaque protestant et pape a une Bible à la main, n'est-ce pas ? Non, je crois que c'est une manière, comme disent les catholiques, et ça ils ont raison de souligner, d'attirer notre attention là-dessus, de lire la Bible comme ils disent en église. On lit la Bible en église, et c'est vrai, là ils ont raison. Hein. Ça ne veut pas dire que eux ils sont tombés dans l'excès inverse, bien sûr, en ne la lisant pas en privé pratiquement. Bon, mais là ils ont tort. Ils ont tort. Et la première démarche, nous l'avons dit, ça a été le grand mérite de la réforme, de remettre ça en évidence, n'est-ce pas ? On doit la lire pour soi-même et l'étudier pour soi-même. Mais après, eh bien, on doit la lire avec les frères, hein, et notamment avec ceux qui l'ont étudiée d'une manière peut-être plus particulière, qui avaient reçu de Dieu des dons et des talents pour cela. Alors, la première aide qui va nous permettre justement de faire ce travail, et ce travail-là a pour but essentiel de nous assurer que nous ne nous sommes pas trompés. C'est ça le but. Nous pouvons nous tromper, même si nous savons que le Seigneur nous conduit et que son esprit va nous conduire, mais quand même. Et l'esprit nous évitera justement de nous égarer en ce que, précisément, eh bien, il nous permettra de confronter avec d'autres ce que nous avons découvert. Alors, une aide première, ce sont les langues de la Bible. Nous disions, quand nous avons parlé des traductions, que l'idéal serait que chaque chrétien puisse lire la Bible dans les textes originaux hébreux et grecs. Bien sûr, nous avons dit que c'est impossible, donc automatiquement il faut recourir à des traductions. Bon, maintenant, si l'on veut soi-même creuser un peu les choses, ce qui est notre but à nous qui sommes ici, c'est-à-dire ne pas nous contenter, je dirais, du niveau moyen du membre d'Église, mais essayer d'aller un petit peu plus loin, eh bien, l'étude des langues de la Bible nous aidera considérablement. Cette étude des langues de la Bible ira aussi de pair avec une étude de l'histoire ancienne. Et je dirais que l'étude des langues de la Bible, même superficiellement, même une approche des langues de la Bible, nous aidera déjà considérablement. Il n'est pas question que chacun de nous devienne un spécialiste de l'hébreu et du grec biblique, mais même une petite connaissance, une petite approche, nous aidera considérablement. Et si cette approche s'accompagne, par exemple, de la consultation de bons commentaires, après, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, après que nous ayons étudié par nous-mêmes, je crois que la démarche logique devrait être celle-ci. Si nous voulons étudier tel passage, nous l'étudions pour nous-mêmes. Nous notons ce qui nous frappe. Et après, nous passons à des commentaires, et pas l'inverse. Parce que si nous prenons un commentaire d'abord, avant d'avoir fait le travail de réflexion nous-mêmes, eh bien, notre réflexion va être orientée. Notre réflexion va être conditionnée par ce que nous aurons lu. Et selon le commentaire que nous emprunterons, eh bien, nous serons conditionnés dans un sens ou dans un autre. Tandis que si nous faisons l'inverse, si nous commençons par étudier nous-mêmes le texte, et ensuite nous comparons ce que nous avons découvert dans un commentaire, ça va être beaucoup plus enrichissant. Alors, quel est l'avantage justement d'une approche des langues de la Bible ? Eh bien, nous ne serons plus tributaires des traductions, du moins pas au même niveau. Et les écueils des traductions que nous avons soulignés dans nos études précédentes seront, sinon évités entièrement, dans la mesure où peut-être nous n'aurons pas une maîtrise totale des langues de la Bible, mais en tout cas, nous permettront d'éviter un certain nombre de pièges, un certain nombre d'écueils, n'est-ce pas, de traductions tendancieuses ou erronées, ou parfois tout simplement comme ça. Ou alors aussi, par exemple, nous permettra de réfuter les sectes. Les témoins de Jéhovah, par exemple. Les témoins de Jéhovah qui ont comme cheval de bataille le fait que le véritable nom de Dieu est Jéhovah. Alors, c'est très simple. Moi, quand je m'amuse comme un petit fou, quand j'ai des témoins de Jéhovah qui viennent comme ça chez moi, parce que je leur écris en hébreu le nom de Dieu, ce qu'ils traduisent par Jéhovah, et je le vocalise tel qu'il se trouve dans la parole de Dieu, puis je leur dis « Maintenant, lisez ça ». Alors, en général, ils pâlissent, ils rougissent, ils verdissent, etc. Et puis, alors je leur explique, vous voyez, je dis, c'est vocalisé de telle manière que vous ne pouvez pas le prononcer. Donc, ça ne peut pas être Jéhovah. Bon, c'est certain que ça leur fait un coup moral, hein, ça c'est sûr. On n'est pas tributaire de choses de gens comme ça. C'est sûr que on se familiarise aussi avec, comment dirais-je, le style de la Bible. Par exemple, quand on sait que l'hébreu use de répétition sous forme d'insistance, par exemple, les siècles des siècles. Ça ne veut rien dire en français, mais c'est devenu une expression quasiment liturgique. Hein, les siècles des siècles, c'est un hébraïsme qui signifie pour l'ensemble des siècles, pour la totalité des siècles. Par exemple, une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible, mais qu'on ne traduit pas comme ça parce qu'elle serait, elle ne passerait pas en français. Tu mourras de mort. Par exemple, quand Jonathan a violé l'ordre de son père de ne pas prendre de nourriture avant que son père se soit vengé de ses ennemis. Il a pris un petit peu de miel sur le bout de son bâton et son père lui dit, bien, Jonathan, tu mourras de mort. Ça veut dire, tu vas mourir, c'est sûr. Là, je te pardonne pas cette affaire. C'est sûr, tu vas mourir. Bon, c'est une forme d'insistance. Bon, il faut le savoir. C'est des choses comme ça qu'il faut savoir. Et si on ne connaît pas les langues de la Bible, il y a des choses qui échappent. Même en français, n'est-ce pas? Et même quand on sait, par exemple, que l'hébreu répète pour insister, pour dire c'est absolu, c'est vrai, hein, les siècles des siècles, par exemple, c'est-à-dire l'éternité, en fin de compte. Bon, ben, automatiquement, on ne va pas répéter bêtement une formule qui est devenue une formule liturgique qu'on trouve même dans le Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Hein? Bon, ben, on comprend, ben, pour l'éternité. Hein? On comprend. Bien. Alors, oui, on a ça, par exemple, le Saint des Saints, le lieu très saint, c'est-à-dire le lieu le plus saint, tout simplement, le cantique des cantiques. Ça veut dire le meilleur des cantiques, le plus beau des cantiques. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Hein? Bon, quand on sait, par exemple, que la poésie hébraïque est basée sur soit justement la répétition de la même pensée sous deux formes différentes, ou sur l'opposition. Hein? La femme intelligente construit sa maison, la femme folle la détruit de ses propres mains. Et c'est pourquoi, par exemple, quand M. Kuhn s'est efforcé de traduire les psaumes en vers de six pieds avec une assonance à la fin de chaque verset, ben, le pauvre, il est à côté. Ça n'a rien à voir avec la poésie hébraïque, c'est de la poésie française, ça. Hein? Mais jamais, jamais, jamais les Hébreux n'ont eu cette conception-là de la poésie. Pour la poésie, c'est encore une fois répéter les mêmes choses. Alors, quand on prend, par exemple, le livre des Proverbes, hein, et qu'on a un mot qu'on ne comprend pas, eh bien, on prend le verset suivant. Il répète. Il répète sous une forme différente ce qu'il a voulu dire. Donc, le verset suivant éclaire le premier que nous n'avons pas compris. Ou bien, si nous prenons son contraire, hein, par exemple, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Bon, l'attente des justes n'est que joie, c'est une traduction, comment dirais-je, un peu arrangé, parce que l'hébreu ne dit pas exactement ça. L'hébreu dit une formule qui est « Mecholel tzadikim simcha ». Bon, ça veut dire ça en fin de compte, mais enfin, c'est pas exactement ça. Alors, si on comprend pas très bien la première partie de la phrase qui effectivement est obscure en hébreu, on prend la deuxième partie. Mais l'espérance des méchants périra, n'aboutira pas, sera déçue en quelque sorte. Donc on peut conclure, qu'est-ce que veut dire le premier membre de phrase? Eh bien que l'espérance des justes, au contraire, va aboutir et va s'accomplir et sera donc source de joie pour le juste. Vous voyez, en comparant la chose et son contraire, on éclaire le sens du texte. Hein? Alors ça, c'est vrai particulièrement dans la poésie, c'est-à-dire dans les psaumes, dans les proverbes, dans certains passages prophétiques où on trouve ces procédés constamment. Bon, mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Hein? Bon, autre problème, celui des temps. Si on sait en hébreu qu'il n'y a pas de temps, pas de passé, pas de présent, pas de futur, bon, on va relativiser drôlement les temps. Vous avez des traductions, n'est-ce pas, qui seront futures, le Seigneur va faire telle chose, va faire telle autre, etc. Et puis, il y a une antériorité qui est simplement le résultat de l'imagination du traducteur. Alors, quand on sait ça, bon, on ne va pas s'arrêter justement sur ces nuances de temps qui sont très précises dans nos langues. Et notamment dans le français, nous avons des nuances très très nombreuses au point de vue des temps, le futur antérieur, le passé composé, le subjonctif, l'imparfait du subjonctif et toutes ces choses-là, bon, qui font que la langue française dans ce domaine-là va être une langue extrêmement précise. Bon, on n'a pas ça en hébreu. L'hébreu est beaucoup plus imprécis dans ce domaine-là. Alors il faut savoir, il ne faut pas s'arrêter en disant parce que tel traducteur a traduit telle chose par un futur antérieur, automatiquement c'est le reflet de l'hébreu. Non. Le traducteur peut s'être, sinon trompé, du moins avoir compris de telle et telle manière. Et alors on va pouvoir prendre un peu de champ par rapport à telle ou telle traduction quand on sait ces choses-là. Hein. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des parallèles, des synonymes. Hein. C'est certain que l'hébreu emploie beaucoup les synonymes. Par exemple, le psaume 19, verset 2, le psaume 2, verset 4, etc. Et alors, justement, l'étude des synonymes nous permet justement de découvrir un certain nombre de choses. Et puis, l'augmentation de la pensée par un deuxième terme aussi, ça, on trouve ça souvent en hébreu. L'hébreu qui est une langue extrêmement concrète. Alors, c'est certain que quand on connaît des principes simples de la langue hébraïque, déjà, ça nous enrichit, ça enrichit notre compréhension du texte. Bon, même chose pour le grec du Nouveau Testament. Le grec du Nouveau Testament est un grec facile, simple. C'est ce qu'on appelle le koiné. On a déjà parlé, c'est-à-dire la langue du peuple dont la langue maternelle n'était pas le grec, justement. C'est-à-dire des peuples qui ont été conquis par Alexandre le Grand et qui ont adopté la langue grecque, mais une espèce de grec abattardi qui n'était pas du tout le grec de Démosthène ou de Ripide, quoi. Hein. C'était un grec beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié. Et alors, c'est heureux, n'est-ce pas, pour nous, en quelque sorte, parce que il est assez facile d'apprendre le grec du Nouveau Testament, beaucoup plus facile d'apprendre le grec avec le Nouveau Testament, en tout cas, que d'apprendre l'hébreu. Alors, c'est une langue qui est beaucoup plus proche de notre langue, le grec, que ne l'est l'hébreu. C'est une langue indo-germanique, aryenne, si vous voulez, et qui est aussi ancrée sur la langue des Septante, c'est-à-dire de la traduction grecque de l'Ancien Testament. Ce qui fait qu'on peut facilement remonter de l'une à l'autre. Là aussi, n'est-ce pas, il y a tout un ensemble de synonymes qui sont là pour nous aider parce que c'est une langue. Le Nouveau Testament est écrit en grec, mais il est pensé en hébreu. Il est pensé par des gens qui parlaient hébreu. Et souvent, c'est un décalque de l'hébreu. Hein. Alors, ça aussi, il faut savoir qu'il y a une interpénétration des deux choses. Alors, comment tirer un profit de l'étude de ces langues? Comment étudier ces langues? Bon, il y a trois stades. Je dirais qu'il y a trois stades, selon l'effort que chacun est prêt à fournir dans ce domaine-là. Si du moins certains pensent qu'ils peuvent fournir un effort dans le domaine des langues. Et d'abord, ce que j'appellerais avoir de bonnes concordances qui ont des équivalents hébreu et grec. Je n'en connais pas en français. Peut-être en existe-t-il, mais personnellement, je n'en connais pas. Par contre, personnellement, j'ai une excellente concordance, une grosse concordance, qui est une concordance anglaise, n'est-ce pas, qui s'appelle la concordance Young. On la trouve encore dans le commerce, bien sûr, elle est assez onéreuse, c'est une grosse concordance. Ah, en français, si. Il y a une concordance du Nouveau Testament qui est une concordance catholique qui a été faite par une sœur, Jeanne, je sais pas quoi, n'est-ce pas, qui est alors le nec plus ultra dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous prenez un mot, par exemple, n'importe quel, le mot Dieu, disons, le mot Dieu. Hein. Bon, alors, vous avez les différents... tout de suite, vous avez les différents noms de Dieu en hébreu et en grec. Ça commencera par le mot Elohim, par exemple. Alors, vous l'avez écrit en français et vous l'avez écrit en hébreu à côté. Vous avez les différents sens du mot Elohim, sa racine, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez toutes les références où vous trouvez le mot Elohim. Bon, si vous passez au Nouveau Testament, vous aurez le mot Théos, écrit en français et ensuite écrit en grec. Le sens du mot théos, en quelques lignes, et puis ensuite tous les textes sur lesquels vous trouvez ce mot, etc. Hein. Alors, si vous voulez, ça, à peu de frais, enfin, sinon pécuniaire, un petit peu, parce que ça, c'est des instruments qui coûtent assez cher, et la grosse concordance de la sœur Jeanne en question, là, est assez chère. J'ai renoncé à l'acheter pour cette raison-là, d'ailleurs, surtout autant que j'avais la Young, d'ailleurs, si bien que ça m'aurait fait un peu double usage, bien qu'elle est meilleure que la Young, celle-là. Enfin, elle ne vaut que pour le Nouveau Testament, tandis que la Young a aussi l'Ancien Testament. Peut-être d'ailleurs, éventuellement, qu'on pourrait envisager d'acheter des choses comme ça pour la bibliothèque. Ça permettrait justement de consulter. Alors, si vous voulez, à peu de frais intellectuels, en tout cas, à peu d'efforts intellectuels, ça permet, si vous voulez, d'avoir une approche. C'est-à-dire que vous remontez à l'original du mot. Vous n'avez pas simplement, comme si vous prenez une concordance, la concordance de second, la petite concordance moyenne, la convent à la société biblique, etc., où vous avez le mot tout simplement en français, quoi. Hein. Tandis que là, vous avez les différents mots grecs, ou les différents mots hébreux, qui sont traduits par le mot français que vous cherchez. Alors, déjà, vous avez toutes les nuances. Vous pouvez déjà trouver un certain nombre de nuances. Et même sans lire ni l'hébreu ni le grec, comme vous avez une translittération en français, vous pouvez savoir comment le mot se prononce, vous pouvez savoir sa signification exacte, etc., etc. Bon. Alors maintenant, vous avez une autre étape, bien sûr, c'est de recourir à un dictionnaire ou un lexique. Même sans connaître la langue en elle-même, vous achetez un dictionnaire de l'hébreu biblique, par exemple le Sander et Trenel, ou bien l'excellent petit lexique de Maurice Carrez pour le grec du Nouveau Testament. Ça, on peut l'acheter éventuellement. Maurice Carrez, lexique du Nouveau Testament, ou dictionnaire du Nouveau Testament, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors là, il faut un petit effort quand même, il faut apprendre à lire, quoi. Il faut apprendre l'alphabet hébreu et l'alphabet grec. Parce que là, autrement, vous n'en sortirez pas. Mais bon, c'est pas compliqué. Hein. Apprendre l'alphabet, on a tous fait ça quand on était à l'école. On peut le refaire pour le grec et pour l'hébreu, hein, au moins pour le grec. Quoi. Pour le grec, le Sander Trenel, il est assez difficile, parce qu'il faut connaître quand même le principe des racines hébraïques. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour ce qui est du grec du Nouveau Testament, et puis le dictionnaire de Maurice Carrez, il est relativement bon marché, quoi. Hein. C'est un livre de cette épaisseur-là, de 100 pages, peut-être 250 pages, qui contient l'essentiel du vocabulaire du Nouveau Testament, avec les références et les définitions. Donc vous cherchez un mot. Vous le prenez par exemple dans une concordance, par exemple le mot théos, disons, puisque j'ai parlé tout à l'heure de ça, hein, ou le mot amartia, le péché, hein, le péché, l'iniquité, le mot amartia. Vous le cherchez dans votre dictionnaire et vous avez la définition du mot. Vous avez ces différentes traductions possibles, comment on l'a traduit dans tel endroit, comment on l'a traduit dans tel endroit, pourquoi il a été traduit de telle et telle manière, les mots voisins, dérivés, etc. Bon, ça vous donne déjà une approche. Et puis évidemment, la troisième étape, alors là, c'est la grosse étape, quoi, hein, où on se lance à fond, quoi. Alors, en étudiant la syntaxe, en étudiant la grammaire, en étudiant la langue, quoi, en étudiant la langue à fond. Alors pour ce faire-là, il y a différentes méthodes. Hein. Pour l'hébreu, plusieurs ont fait ça. Ça, je pourrais en parler si ça intéressait quelqu'un. Il y a des moyens audio, des choses comme ça. Pour le grec, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, d'apprendre le grec que l'hébreu. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Surtout le grec du Nouveau Testament, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même un grec relativement facile. Il y a par exemple des petits livres qui s'appellent, c'est en anglais, moi j'ai appris comme ça personnellement, le grec, Teach Yourself New Testament Greek, enseignez à vous-même le grec du Nouveau Testament. C'est pas la peine de prendre le grec classique, hein, le grec de Démosthène et d'Euripide, qui est assez ardu, très ardu même. Alors là, c'est s'embêter pour rien, mais si ça amuse certains, ils peuvent acheter à lire et écrire ou dans une librairie quelconque, scolaire, n'est-ce pas, une grammaire du grec classique, et puis s'y plonger, si ça les amuse. Moi, j'ai rien contre, évidemment. Mais enfin, personnellement, j'ai préféré prendre carrément le grec du Nouveau Testament, quoi. Alors, on a aussi en bibliothèque une grammaire grecque que s'appelle Guy nous a donné, et le gros dictionnaire Bailly. Le dictionnaire Bailly, qui est le grand classique du grec, quoi. Alors ça, le grec vraiment classique, mais aussi, évidemment, le grec du Nouveau Testament. On peut chercher, n'est-ce pas, il est à votre disposition ici, je l'ai mis à la bibliothèque, hein, Marc l'a rangé. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous plonger dans le Bailly et puis trouver un certain nombre de mots du Nouveau Testament, etc. Alors vous pouvez aussi vous procurer des traductions interlinéaires tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a des éditions de la Bible qui sortent actuellement, Pendant longtemps, ça n'existait qu'en anglais, et depuis quelque temps, ils sont en train de les sortir également en français, où vous avez une traduction mot à mot, si vous voulez, ligne par ligne. C'est-à-dire, vous avez l'hébreu ou le grec, et puis en dessous de chaque mot hébreu, de chaque mot grec, vous avez une traduction littérale, littérale de ce mot. Donc, si vous connaissez mal les langues de la Bible, ou si vous ne les connaissez pas du tout, vous avez le littéralisme. Et puis en marge, vous avez une traduction classique, normale, quoi. Alors vous pouvez comparer, si vous voulez, et le littéralisme, et puis la traduction que les éditeurs de cet ouvrage ont fait. Alors ça s'appelle version interlinéaire. Alors ça existe depuis relativement longtemps pour l'Ancien Testament, en tout cas au moins pour la Torah, au moins pour les 5 livres de Moïse. Je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas pour la Torah, ça existe. Et puis alors, vous l'avez maintenant pour le Nouveau Testament. Il y a un seul inconvénient à ce genre de littérature, c'est que c'est très cher. Je crois que le Nouveau Testament interlinéaire doit aller chercher dans les 200-250 francs, quelque chose comme ça, sinon plus. Je me souviens que mon père était très intéressé pour l'acheter. Il est au grand séminaire, là, j'avais téléphoné, il l'avait. Mais quand on a vu les prix, ça nous a un peu refroidi, quoi. Mais enfin, il est certain que plutôt que d'acheter des bêtises, des bouquins minables, si vraiment on veut étudier à fond, ça peut valoir le coup de faire la dépense. Hein, faire la dépense de quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est le gros inconvénient. Tous les livres d'études sont chers. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que souvent d'abord ils sont assez volumineux. Si on prend par exemple la grosse concordance Young dont je parlais tout à l'heure, bon ben ça fait quoi, ça fait 600 pages, hein, automatiquement. Bon, ça augmente les prix, c'est évident. Deuxièmement, ce sont des livres rares qui sont peu diffusés, et on sait bien que le prix de revient, n'est-ce pas, d'un ouvrage diminue avec le tirage. Plus on a un tirage élevé, moins c'est cher à l'unité, et plus le tirage est restreint, et plus c'est cher à l'unité parce que l'éditeur doit rentrer dans ses frais automatiquement, quoi. Hein. Alors, les livres d'études sont souvent comme ça. Bon, vous avez aussi des dictionnaires, par exemple le dictionnaire de Pache, etc., qui donnent parfois aussi des racines hébraïques ou grecques d'un certain nombre de mots, de concepts comme ça. Bon, alors ça peut aider considérablement. Et c'est pourquoi, finalement, je crois que c'est intéressant d'avoir un minimum, une approche de ces langues-là. Hein. Même sommaire, on disait tout à l'heure, par exemple, par une simple concordance, type Jung ou autre, n'est-ce pas, ça peut être extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, les commentaires. Là, nous sommes dans une transition, parce que là, ce sont des instruments, si vous voulez, d'aide à l'étude personnelle. Bon, ça vaut aussi pour les dictionnaires dont je parlais il y a un instant. Et puis ensuite, on passe carrément aux commentaires. Les commentaires, si c'est des bons commentaires aussi, feront appel aux langues originales. Et c'est pourquoi, justement, il est bon, avant de consulter un bon commentaire, d'avoir fait une petite étude linguistique soi-même, hein, du texte auquel on se réfère. Donc, les commentaires sont une aide, mais ne sont pas un substitut à la réflexion personnelle. J'y reviens, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y insiste parce que c'est très important. Je crois qu'il est extrêmement... Les commentaires sont à manier avec beaucoup de précautions. Parce que, d'abord, il faut en faire un choix judicieux. Il y a beaucoup de commentaires qui sont mauvais. Soit parce qu'ils sont inspirés par une théologie libérale ou moderniste, soit parce qu'ils sont conditionnés par une école de pensée, le calvinisme, par exemple, le dispensationalisme, ou le catholicisme, etc. Et par conséquent, si vous voulez, peuvent nous mettre sur des rails. Et c'est toujours le grand, grand danger des commentaires, c'est d'être mis sur des rails. C'est pourquoi il faut choisir avec soin les commentaires. Par exemple, il y a d'excellents commentaires qui sont ceux de Godet, qui ont fait un travail très 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 sérieux, ou bien les commentaires de Campbell Borgon dont je parlais tout à l'heure, qui sont en anglais malheureusement. Hélas, il faut bien dire que en français on est assez pauvre dans le domaine justement de la littérature biblique. Et ça pour une raison aussi très simple, c'est que encore une fois, de semblables instruments sont très chers à publier, et le public français est trop peu important, le public évangélique français, protestant évangélique, est trop peu important pour qu'on publie beaucoup en langue française. Ça, c'est le gros problème. Tandis que forcément, en anglais, là, on a tout le monde anglo-saxon, anglais, américain, australien, néo-zélandais, canadien, etc. Donc, automatiquement, ça permet une diffusion beaucoup plus large et par conséquent, des prix de revient aussi qui sont beaucoup plus bas. Et alors, je dirais qu'après avoir appris les langues de la Bible, hébreu et grec, pour vraiment étudier la Bible, il faut quasiment connaître l'anglais. Alors, je ne saurais trop recommander à ceux qui veulent étudier la Bible d'étudier l'anglais aussi. C'est triste à dire parce que je suis assez allergique à tout ce qui est anglo-saxon, mais dans ce domaine-là, il faut reconnaître que là, il y a une richesse, n'est-ce pas ? Dès qu'on est capable de lire l'anglais couramment, on a accès à une littérature alors d'une richesse infinie par rapport à tout ce qu'on trouve en français. Ça, il n'y a pas de doute. Bon. Alors, choisir les commentaires avec soin. Et puis, avoir plusieurs commentaires, comparer plusieurs commentaires. Et puis, savoir que quand nous lisons un commentaire, nous ne lisons pas l'Évangile. Et par conséquent, nous devons avoir suffisamment de recul, suffisamment de jugement personnel et d'esprit critique pour être en désaccord avec le commentaire que nous utilisons. Nous ne devons pas avaler ça comme si c'était encore une fois la parole même de Dieu. Et nous n'avons pas à hésiter à ne pas être d'accord parfois avec tel ou tel commentaire. Et les commentaires doivent être lus avec un esprit critique. Sans jamais nous inféoder à aucune école de pensée. Et ça, c'est dramatique parce que forcément, inconsciemment, consciemment ou non, nous sommes plus ou moins tributaires d'écoles de pensée. Il est certain, par exemple, que nous autres évangéliques, sans même en avoir conscience, nous sommes tributaires, par exemple, de Calvin, dans une large mesure, même si nous ne sommes pas calvinistes, et même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec tout ce que Calvin dit. Mais nous sommes tributaires de Calvin. Et au-delà, si nous remontons, nous sommes tributaires d'Augustin. Les catholiques sont tributaires de Thomas d'Aquin. Nous sommes tributaires d'Augustin. Bon, ils ont dit des bonnes choses, ces gens-là. Ils ont dit des bêtises aussi, forcément, parce que c'est des hommes. Nous sommes tributaires, si nous sommes beaucoup plus proches maintenant, nous sommes tributaires de Darby, dans le domaine, par exemple, du dispensationalisme. Et dans les milieux évangéliques, le schéma de l'eschatologie est à 90% tributaire de Darby. Bon ben, Darby a un grand mérite, c'est qu'il a été le premier à élaborer un système d'eschatologie qui était cohérent avec la révélation biblique. Bon, et grâce à lui, dans les milieux évangéliques, on a redécouvert cette grande vérité que Jésus revenait. C'est merveilleux. Mais il a trop systématisé les choses. Et là, n'est-ce pas, actuellement, ça nous joue des tours parce que les choses ne se passent pas exactement comme Darby les avait dites. Et beaucoup de gens sont déboussolés, désorientés. Bon. Ce qui montre bien que nous n'avons pas à être tributaires d'un système de pensée. Il faut connaître les systèmes de pensée, il faut connaître les écoles de pensée. Mais il faut savoir aussi prendre du champ par rapport à cela. Alors, outre les commentaires, qu'est-ce qui doit figurer dans la bibliothèque de quelqu'un qui veut vraiment étudier la Bible ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, une bonne concordance. Ça, c'est la base. Une bonne concordance va nous permettre de gagner un temps considérable. Plutôt que de chercher un texte, soudain, on dit, tiens, il y a tel texte, mais oui, ça peut bien se trouver. C'est dans Jean, mais non, c'est pas dans Jean, c'est dans Luc. Mais non, c'est pas dans Luc, c'est... Ah, on cherche, on trouve pas. Vous avez une concordance, en 30 secondes, n'est-ce pas, vous avez votre texte. Ça, une concordance, c'est quasi indispensable. Alors, vous avez des concordances, je disais tout à l'heure, à tous les prix, vous avez une petite concordance de poche, c'est mieux que rien. Hein, qui coûte quelques dizaines de francs, 20, 30 francs peut-être, n'est-ce pas ? Et puis vous avez donc les concordances moyennes, c'est sur second ou sur la colombe maintenant, il y en a ? C'est à second, oui, bon, c'est un peu dommage, mais on en est encore à second, bon. Et puis alors vous avez donc les concordances, si vous êtes capable de prendre, de lire l'anglais, moi je vous conseille la Young. Hein. C'est vraiment extra, quoi, hein. Là, elle est très, très complète. Et puis, autrement, bah oui, vous avez la concordance de la sœur Jeanne, mais alors, c'est, bon, elle est catholique aussi, ça se sent, hein, c'est sûr. Il y a une... Bon, il y a les apocryphes déjà, et puis bon. Mais enfin, elle est quand même très bien, quoi. Elle est quand même très très bien, c'est sûr. Enfin, déjà, bon, si on a la concordance de second, c'est mieux que rien, quoi. C'est mieux que rien. Deuxième élément, un bon atlas biblique. Ça aussi, c'est très important parce que la Bible se comprend aussi dans son contexte historique et géographique. Notamment, une géographie historique qu'il faut connaître, n'est-ce pas, qui nous évitera aussi des erreurs et qui nous éclairera le texte biblique d'une manière considérable. Si en plus de ça, nous avons la possibilité de visiter le pays lui-même, le pays d'Israël, forcément, ça aide. Et après, justement, avoir un bon atlas biblique quand on a visité le pays d'Israël, ça aide aussi considérablement. Alors, ça, je dois dire qu'il y a eu un gros effort de fait en français ces derniers temps dans le domaine des atlas bibliques. Et il y a des choses tout à fait valables, aussi à différents prix. Aussi bien des petits atlas brochés à bon marché, hein, je ne sais pas combien ils se vendent, jusqu'à des choses alors beaucoup plus élaborées, beaucoup plus illustrées, etc., en couleur, tout ça, qui sont très très bien faites. Là, je dois dire que là, il y a eu un gros effort de fait, même si là aussi, parfois, il y a encore des erreurs. Hein. Bon. Autre chose importante, un dictionnaire ou une encyclopédie biblique. Alors là aussi, il y a des choses valables en français, notamment le dictionnaire d'Emmaüs, qui est, à mon avis, le plus valable qui existe en français, qui a été l'objet de différentes éditions. Il a été revu, corrigé et augmenté. Il faut savoir qu'il obéit à une certaine école de pensée, comme je disais tout à l'heure, notamment le courant évangélique non charismatique, et je dirais même anti-charismatique, dispensationaliste, de type darbiste. Et par exemple, ce schéma darbiste de l'eschatologie que j'évoquais tout à l'heure, qui est extrêmement discutable, se retrouve dans ce dictionnaire-là. Bien entendu, ils sont très opposés au charisme, donc il faut relativiser toutes ces choses-là. Mais il faut savoir, quoi, quand on sait ça, on est capable de relativiser, et puis il y a des choses excellentes. Maintenant, il y en a d'autres qui sont sortis, qui sont nettement moins bons, hein, et même qui sont carrément libéraux, dangereux. C'est pourquoi je me limiterai tout de même, si certains sont intéressés par un achat de ce type-là, n'est-ce pas, je me limiterai au dictionnaire d'Emmaüs, qui me semble tout de même en français le meilleur qui soit. Bien entendu, si vous êtes capable de lire l'anglais, ou même l'allemand, bien sûr, il y a des choses alors infiniment plus valables. Bon, je ne connais pas l'allemand, donc je ne sais pas ce qui se publie là-dedans, mais enfin, en anglais, je sais qu'il y a des choses qui sont tout à fait valables, bien sûr. Bon. Autre chose qui peut être intéressante aussi, ce sont des livres, comme il en sort pas mal en français en ce moment, sur les us et coutumes des pays bibliques. Hein, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y a des petits livres qui sont très intéressants et très peu chers. On les a en bibliothèque, je crois, Marc. Hein. C'est ça. Donc, sur les us et coutumes de l'époque du Nouveau Testament et de l'époque de l'Ancien Testament. Et puis, il y a un troisième, je ne me souviens plus ce que c'est. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez, par exemple, les routes, comment on circulait à l'époque biblique, les transports, le commerce, l'histoire, à l'époque romaine, enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin de savoir, les poids et mesures, à quoi ça correspond, les monnaies, toutes ces choses-là. C'est très intéressant. Et là, vous pouvez vous les procurer pour pas cher. Et puis, alors, évidemment, si vous voulez mettre davantage, vous avez aussi des choses qui sont beaucoup plus valables, avec des belles illustrations, des choses comme ça. Remarquez bien que de tels livres sont chers, bien sûr. C'est leur moindre défaut, je disais tout à l'heure. Mais parfois, ça vaut le coup de faire l'investissement sur plusieurs années, hein, plutôt que d'acheter, quand on se fait payer pour un anniversaire, pour un Noël ou des choses comme ça, plutôt que d'acheter des bêtises, demander ou investir, mettre de l'argent, un peu d'argent de côté pour acheter des livres de ce type-là, c'est pas un investissement qui est inutile, c'est pas un investissement qui est perdu. C'est quelque chose qu'on retrouve parce que c'est vrai que ça peut enrichir considérablement notre connaissance et notre étude de la Bible. Alors, dans le domaine de l'histoire naturelle aussi, les plantes de la Bible, les animaux de la Bible, des choses comme ça. L'archéologie. Alors, il y a aussi d'excellentes choses qui sont sorties en français dans le domaine de l'archéologie cet an dernier, et notamment un ouvrage de Thomson qui date déjà un peu et qui est un petit peu dépassé parce que dans ce domaine-là, évidemment, ça va très vite aussi. mais qui est excellent, qui s'appelle L'archéologie de la Bible par Thomson. C'est une traduction de l'anglais, bien sûr, comme la plupart de ces livres-là. Vous avez aussi alors des ouvrages plus généraux sur les us et coutumes à l'époque biblique qui font aussi mention de l'archéologie. Alors maintenant, autres livres qui peuvent être intéressants, mais qu'il faut manier avec une grande précaution, un luxe de précaution, je dirais, ce sont les livres de doctrine. Il faut les trier avec soin. Bon, ce n'est pas inutile, bien entendu, d'avoir à sa disposition des livres de doctrine. Il y en a d'excellents. Il y a d'excellents sur la théologie systématique. Mais il y en a d'autres, évidemment, avec toutes les doctrines erronées et bizarres qui circulent de nos jours, qui peuvent être extrêmement dangereux, notamment en ce qui concerne le modernisme, et qui peuvent déstabiliser quelqu'un. D'autant plus que derrière ces choses-là, il y a souvent des puissances démoniaques. Ça, je l'ai expérimenté moi-même. Je me souviens, par exemple, d'un jeune homme qui était un petit peu plus vieux que moi, mais qui terminait des études de français. Il passait licence CAPES, etc., et il avait donc deux auteurs à travailler. Le premier, c'était Pascal, et le deuxième, c'était Voltaire. Il devait choisir entre ces deux-là et présenter un travail à ses examinateurs pour son examen final. Il était chrétien, engagé, etc. Et tout naturellement, forcément, il aurait dû prendre Pascal. Puis bêtement, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, une idée complètement saugrenue, il a pris Voltaire. Il s'est plongé dans Voltaire jusqu'au cou, et il a été ébranlé dans sa foi. Et là, sa mère, qui était une chrétienne convaincue, et son pasteur et moi-même, qui ont eu affaire à lui, nous sommes rendus compte très vite que c'était plus qu'une simple, déstabilisation rationnelle, et des attaques démoniaques, et des attaques de doute, et des démons de doute qui interviennent. Et moi-même, quand j'étais en Église réformée, avant ma conversion, pour avoir lu des ouvrages de ce type-là, souvent par hasard d'ailleurs, mais qui traînaient justement dans les bibliothèques des églises réformées que je fréquentais à l'époque, j'ai connu des luttes de ce type-là, donc je sais ce que c'est, avec justement les attaques démoniaques en arrière-plan, sur le doute, sur la parole de Dieu, des choses comme ça. Alors faites très attention aux livres de doctrine, et notamment aux livres de doctrine modernistes. Bon, maintenant, évidemment, des années après, j'ai fait le tour de ces choses, et j'en rigole aujourd'hui. C'est tellement bête. C'est ce que je disais aux jeunes l'autre jour quand on parlait de l'évolution. Bon, quand ils ont reconstitué le squelette le profil de l'homme, le pithécanthrope ou un truc comme ça, à partir d'une dent qu'ils ont trouvée qui s'est avérée être une dent de porc en fin de compte. N'empêche que vous avez des gens qui sont troublés, et ça fait du mal en attendant, ça fait du mal, jusqu'au moment où ils trouvent que c'était une dent de porc. Alors on en rigole après, bien sûr. N'empêche que ceux qui sont dans la tourmente, qui sont dans la tempête à ce moment-là, ils rigolent pas, eux. Alors bon, c'est la même chose pour ces livres-là. Moi, je vous dis, j'en ai fait le tour, et maintenant j'en rigole, c'est tellement gros. Et bon, j'ai progressé, bien sûr, mais quand on est dans le coup, c'est pas toujours facile, et vous en avez qui ont été ébranlés dans leur foi sous ces choses-là. Alors faites très attention au livre de doctrine à cause de ça. Voilà, si vous voulez, on va en rester là pour ce soir.